France Inter.
Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Paris et ses alliés n'ont pas voulu arrêter le génocide des Tutsis au Rwanda. Emmanuel Macron fait un pas de plus dans la reconnaissance de la responsabilité de la France il y a 30 ans. Il prononcera ces mots dimanche. L'Élysée les fait connaître aujourd'hui. 37 000 cibles humaines traquées par l'intelligence artificielle. Nouvelle enquête de journalistes israéliens sur la manière dont l'État hébreu utilise l'IA à grande échelle dans la bande de Gaza. L'actualité, c'est encore le conducteur de la rame d'essai du TGV Est à la barre aujourd'hui du tribunal. Il n'a fait que suivre les consignes de vitesse, dit-il. L'univers grandit toujours, mais peut-être moins vite qu'il y a quelques milliards d'années. C'est la découverte scientifique du jour. Des stars du peloton au tapis, grosse chute dans le tour du Pays Basque, Vingegaard hospitalisé. Il est conscient, mais on n'a pas plus de détails. Juste après ce journal, quand les data transforme la pratique du sport. Vos témoignages 01 45 24 7000.
France Inter.
L'échange risque d'être tendu tout à l'heure. Joe Biden et Benjamin Netanyahou doivent se parler au téléphone 3 jours après la mort de 7 humanitaires dans la bande de Gaza. Le premier ministre israélien a admis qu'il s'agissait d'une frappe israélienne. Le président a présenté ses excuses, mais la Maison-Blanche, comme une grande partie de la communauté internationale, se dit indignée. D'autant que le déplacement était signalé, que le convoi était siglé. Le chef de l'ONG World Central Kitchen ne croit pas à l'accident.
Nous avons été pris pour cible délibérément, sans arrêt, jusqu'à ce que tout le monde soit mort dans ce convoi. Il ne s'agit pas d'un coup de malchance, d'une situation où, mince, on a lâché une bombe au mauvais endroit. Non, c'était un convoi humanitaire clairement identifié, sur plus de 1,5 km ou 1,8 km, avec des autocollants sur le toit. Les humanitaires et les civils ne devraient jamais payer les conséquences de la guerre. C'est un principe fondamental de l'humanité. Ce n'est plus une guerre contre le terrorisme aujourd'hui. C'est une guerre contre l'humanité elle-même.
Joseph Andrés qui accuse dans un entretien Reuters, traduit par Sébastien Paour, la mort de ces 7 humanitaires. Un drame parmi tant d'autres. Depuis le début de la guerre, plus de 33 000 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza, selon les chiffres du Hamas, qui contrôle le territoire. Un nombre de victimes civiles sans précédent. Et dans cette guerre, on l'a découvert en décembre dernier, dans une enquête conjointe de sites d'investigation en ligne israélien, plus 972 magazines et local call, Israël utilise l'intelligence artificielle pour des plans d'attaque, pour des suggestions de cibles. Deuxième volet de leur travail aujourd'hui. Bonsoir Eric Biegala.
Bonsoir Hélène.
Il montre comment Israël a perfectionné l'outil pour traquer et tuer des personnes en lien, même très éloignées avec le Hamas.
Oui, le système a été baptisé Lavender et c'est une intelligence artificielle qui va désigner des cibles humaines pour les tirs des avions, des drones et autres outils militaires employés sur Gaza. Et ce que révèle l'enquête de Plus 972 Magazine, c'est que Lavender propose un ciblage de toute personne ayant des liens parfois très ténus avec le Hamas, des habitudes de vie, la fréquentation d'un même lieu ou une conversation téléphonique avec un militant avéré du Hamas suffit à la machine pour vous transformer en cible. À certaines périodes, Lavender a ainsi désigné automatiquement jusqu'à 37 000 Gazaouis comme cible possible, c'est-à-dire bien au-delà du nombre total estimé de combattants du Hamas. Lavender est couplé à un autre système, lui aussi basé sur l'IA, qui traque toutes ces cibles et propose une attaque sur leur domicile dès qu'elles s'y trouvent. Résultat, tous les habitants du domicile, voisins compris, font les frais de l'attaque. Des familles entières ont ainsi été tuées en pleine nuit.
Et Israël s'autoriserait un nombre de victimes civiles collatérales jamais vu, Eric.
Oui, normalement, les armées s'autorisent des pertes chez les civils, mais les plus réduites possibles. Une, deux personnes, jusqu'à 5 personnes, fonction de l'importance de la cible. Dans la présente opération, on est monté à 15-20 personnes, et ce pour atteindre de simples opérateurs présumés par le système Lavender, justement. Pour un chef de brigade du Hamas, le nombre de civils que l'armée israélienne s'autorise à tuer en même temps que lui est monté jusqu'à 300, révèle encore Plus 972 Magazine. tout un quartier rasé pour atteindre un seul homme. La machine de guerre israélienne semble s'être transformée en simple machine de mort, une machine de mort quasi automatique.
L'armée israélienne qui a été interrogée dans cette enquête, Eric, y dément ces révélations des deux magazines. Et alors que l'Iran menace Israël de représailles après la frappe de lundi sur l'une de ses ambassades, l'armée israélienne décide de suspendre toutes les permissions dans les unités combattantes. Hier déjà, elle avait annoncé le recrutement de réservistes pour renforcer ses défenses aériennes.
Le Rwanda commémore dimanche les 30 ans du génocide des Tutsis. Et Emmanuel Macron va donc faire un pas de plus dans la reconnaissance de la responsabilité de la France.
Le chef de l'État ne sera pas sur place au Rwanda, mais il a prévu de diffuser un message vidéo sur les réseaux sociaux dimanche. Et l'Élysée en fait connaître le message essentiel aujourd'hui. Emmanuel Macron dira que la France aurait pu arrêter le génocide en 1994 avec ses alliés occidentaux et africains, mais qu'ils n'ont pas voulu, plus qu'un silence coupable qu'il avait déjà reconnu il y a 3 ans. Bonsoir Béatrice Duguay.
Bonsoir.
C'est donc un vrai pas de plus.
Oui, il y a 3 ans, le chef de l'État avait estimé que la France n'avait pas été complice du génocide, mais qu'elle n'avait pas su tirer les conséquences appropriées. Là, il s'apprête à dire donc qu'elle n'a pas voulu arrêter l'horrible engrenage. Différence sémantique importante aux yeux de Vincent Duclerc, l'historien qui a présenté un rapport accablant en 2021 sur la responsabilité de la France et qui était notre invité à 18h.
Le soutien inconditionnel, en particulier à partir d'octobre 1990, au régime qui prépare le génocide, là pose un problème majeur. Tous les moyens étaient là, ceux des lanceurs d'alerte au sein de l'État, mais aussi des ONG, mais aussi des journalistes, mais aussi des militants, qui pouvaient effectivement arrêter le génocide tôt. Et de ce point de vue-là, c'est quand même une reconnaissance extrêmement forte de toutes les fautes, d'une certaine manière, que la France a commises donc à partir de 1990 au Rwanda.
Et s'il y a responsabilité de la France, pour Jeanne Allaire Caillérois, les conséquences peuvent être juridiques. Jeanne Allaire est vice-présidente de l'association Ibuka en France, ONG qui soutient les victimes du génocide de Tutsi, et elle vit aujourd'hui à Kigali.
Il me semble qu'un pays qui est au courant du génocide a l'obligation d'intervenir pour l'arrêter. C'est une nouvelle lecture politique, certes à ce stade, par le président de la République. En tout cas, c'est comme ça que je l'aperçois et qui doit être analysé en profondeur pour voir si en effet ça ouvre la porte à ce que la justice se saisisse de cette question.
Jeanne Allaire Caillérois attend également que la France tienne une autre promesse, la finalisation pour l'année prochaine d'un mémorial sur les quais de la Seine à Paris.
Une reconnaissance à petits pas, dit aussi le journaliste Patrick de Saint-Exupéry, qui était reporter au Rwanda pour le Figaro en 1994. La ministre de l'Éducation nationale veut des réponses rapides après l'agression de Samara, une adolescente de 14 ans, à la sortie de son collège mardi à Montpellier. Enquête administrative ouverte. Conclusion attendue sous 8 jours, la mère de la victime dit que sa fille était harcelée autour de la pratique religieuse, notamment, ce que ne confirme pas encore l'enquête. Gravement blessée, la collégienne est sortie du coma hier et a pu être entendue par les enquêteurs aujourd'hui. Et voici une victoire dans le long combat des Harkis et de leurs descendants pour obtenir réparation. Eux qui ont été recrutés par l'armée française pendant la guerre d'Algérie et malmenés après l'indépendance quand ils sont arrivés en France, 4 enfants de Harkis viennent de faire condamner la France devant la Cour européenne des droits de l'homme pour les conditions de vie indignes des camps d'accueil dans lesquels ils ont grandi. Bonsoir Faustine Calmel.
Bonsoir.
Vous avez rencontré l'un d'eux.
Abdelkader Tamazunt, né dans le camp de Rivesaltes en 1963, il a grandi dans celui de Bias, dans le Lot-et-Garonne, comme enfermé, raconte ce sexagénaire, marqué à vie par son enfance volée.
En étant enfant, je pensais même que mes parents étaient dans une prison et on a subi l'ignominie, vraiment. On a eu faim, on a été spoliés de tout, c'est-à-dire de tous nos droits les plus fondamentaux.
Il fréquente alors une école dans le camp, hors du système éducatif classique. Le courrier est contrôlé. Une partie des prestations sociales dues à sa famille utilisées pour les dépenses du camp. Traitements inhumains et dégradants, juge aujourd'hui la Cour européenne des droits de l'homme, qui estime que les montants alloués par l'État en réparation ne sont ni adéquats ni suffisants. Charles Tamazunt, le frère d'Abdelkader, est président du comité Harkis et Vérité, a porté ce dossier à Strasbourg.
On ne peut pas être sur un droit à réparation comme la loi du 23 février 2022 l'a fait, qui sent ces miettes de réparation une forme d'aumône. Donc il y a une injonction à tout revoir et à tout remettre à plat en ce qui concerne la politique de réparation de la France à l'égard de cette minorité que sont les familles de Harkis et notamment celle du camp de Bias.
La Cour condamne la France à verser près de 20 000 euros aux quatre requérants. Mais ce qu'ils attendent surtout ce soir, c'est une prise de position de l'État au-delà de ce qu'Emmanuel Macron a fait en demandant pardon aux harkis en 2021.
Faustine Calmel, la justice a tranché. Alain Delon sera désormais sous curatelle renforcée. L'acteur de 88 ans, affaibli par un AVC en 2019, était jusqu'ici sous le régime de la sauvegarde judiciaire depuis janvier pour son suivi médical. Le tribunal de Montargis l'a donc converti en curatelle renforcée. Cela implique qu'il n'a plus une totale liberté dans la gestion de ses biens et des décisions qu'il pourrait prendre.
Les prévenus à la barre au procès de l'accident d'une rame d'essai du TGV Est.
Un accident qui a fait 11 morts et 42 blessés le 14 novembre 2015. Et c'est le conducteur de cette rame qui était entendu aujourd'hui. Récit signé Antoine Balandra.
Cela fait des années que je me demande comment on a pu prendre cette décision. À la barre, le conducteur du TGV, élancé, pull et jean noir, reconnaît qu'il a poussé ce 14 novembre 2015 pour retarder le freinage. Induit en erreur, dit-il, par un essai effectué le matin même. Incompréhension de la présidente. Comment avez-vous pu imaginer collectivement qu'il était possible de passer de 330 km/h à 176 en moins de 2 km ? Je me le demande encore, murmure le prévenu. À la barre, l'homme est calme, mais peu prolixe. Ses réponses sont imprécises, lapidaires. À travers son témoignage se profile pourtant une organisation des essais pour le moins hasardeuse. Peu de formation, peu de documentation. J'ai juste eu un dessin du profil de la ligne fait à la main, lâche le conducteur. Pas de débriefing non plus, malgré un premier essai 3 jours plus tôt marqué par un freinage en catastrophe. Alors y a-t-il eu une forme d'inconscience, tacle la présidente. Non, car on était concentré. On a toujours essayé de faire au mieux, estime le conducteur, qui martèle une fois de plus n'avoir été qu'un exécutant.
Antoine Balandra, France Bleu Alsace. Les débats s'achèvent le 16 mai. Décision rendue dans les mois qui suivent. La victoire est presque totale pour les écologistes. Les députés ont voté aujourd'hui à l'unanimité l'interdiction des PFAS, ces polluants éternels, dans les vêtements, dans les cosmétiques. Seule exception, les ustensiles de cuisine. Les salariés de Seb, dont les poêles Tefal en contiennent, avaient mis en avant le risque pour l'emploi. Des PFAS que l'on retrouve aussi dans des sources d'eau minérale naturelle exploitées par le groupe Nestlé en France. Rapport de l'Agence de sécurité sanitaire que l'on découvre aujourd'hui et avec inquiétude dans la ville de Vittel où s'est rendu Thierry Collin.
Des pesticides et des contaminations d'origine fécale dans l'eau minérale, ça inquiète forcément.
Savoir qu'elle est contaminée, voire polluée, c'est pas du tout rassurant. C'est une source qui est protégée des pesticides, alors d'où ça vient ?
Et dans les rues de Vittel, l'avenir du site industriel de plus de 500 salariés est sur toutes les lèvres.
Ça a toujours été le seul entreprise dans le coin.
C'est mort, hein ?
Pour la ville de Vittel, ça me fait un peu peur.
Un rapport très officiel qui confirme les inquiétudes du collectif O88 Bernard. Bernard Schmitt, son porte-parole, défend la ressource en eau dans les Vosges.
Il y a le risque viral aussi, auquel les Espagnols ont été confrontés il n'y a pas très longtemps. Et dans ce cas-là, arrêtez de vendre une eau qui est dangereuse pour la population. La crise qui va tout dépasser, c'est la crise hydrique. C'est même pas la crise de la qualité, ça va être la crise de la quantité. Il faudra mettre fin à l'embouteillage de l'eau. Je pense qu'on a pompé trop, sans tenir compte du changement climatique. Il va falloir modifier complètement nos habitudes et devenir économe en eau, c'est pas ce qu'on fait.
Et sidérés, les élus du personnel de Nestlé Waters à Vittel viennent de demander la tenue d'un conseil économique et social extraordinaire pour avoir au plus vite les explications de leur direction sur les conclusions de ce rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire.
Thierry Collin, France Bleu Sud-Lorraine et les élus CGT de Nestlé Waters, majoritaires dans l'entreprise, ont demandé la tenue d'un conseil économique et social extraordinaire pour des explications rapides. L'eau sera plus chère l'été prochain à Toulouse et dans une trentaine de communes alentour. Vote aujourd'hui de ce nouveau tarif. Seulement en période estivale, il sera plus bas le reste de l'année pour inciter à l'économie, une première pour une grande métropole française. Cette fois, la majorité du territoire français est en rouge pour les allergies au pollen. Après la pluie, il va faire chaud ce week-end. Prenez vos précautions. Gilles Oliver est ingénieur en aérobiologie au Réseau national de surveillance aérobiologique.
S'il y a du beau temps et un petit peu de vent, les pollens vont pouvoir voyager librement dans l'air. Ils vont pouvoir déjà être émis par les fleurs, les chatons des arbres et arriver juste qu'on voit respiratoire des allergiques et malheureusement pour eux causer pas mal de symptômes. Si les allergiques ont déjà consulté des allergologues, normalement ils ont des traitements qui ont été prescrits, c'est souvent des antihistaminiques. Après, il y a des petits gestes qu'on peut faire pour limiter un petit peu les symptômes, éviter de trop sortir pour éviter d'être en contact avec les pollens, bien sûr. Quand on rentre chez soi, ça peut être se rincer les cheveux et changer de vêtements parce que les pollens peuvent se coller dessus. Quand on est en voiture, c'est rouler les fenêtres fermées pour éviter que les pollens rentrent dans l'habitacle. Pour l'aération chez soi, bah, vaut mieux le faire tôt le matin ou tard le soir parce qu'il y a un petit peu moins de pollen à ces moments de la journée.
L'ingénieur en aérobiologie Gilles Oliver avec Hugo Ossillou.
Image d'une chute spectaculaire dans le Tour du Pays Basque.
À une trentaine de kilomètres de l'arrivée, quatrième étape aujourd'hui, sortie de route des favoris du Tour. Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel et Primoz Roglic. Bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir à tous.
Vingegaard a même été évacué sur civière. Il y a une certaine inquiétude ce soir.
Oui, longtemps prostré au sol, hein, le Danois est placé très vite en position latérale de sécurité par le secours. Mais ce soir, son équipe précise que le Danois était conscient lors de son transfert à l'hôpital et qu'elle donnera de plus amples informations sur son état de santé dès que possible. Mais c'est vrai que les images de sa chute passées en boucle sur les écrans de télévision font froid dans le dos. Pris dans une chute collective en sortie de virage, on voit Vingegaard lourdement taper le bitume à un endroit où il y avait des blocs de pierre. Et après avoir été longtemps immobilisé, donc, il a fini par être emmené vers l'hôpital en ambulance, portant une Minerve et sous oxygène. D'autres coureurs ont été emmenés à l'hôpital, comme Remco Evenepoel, se tenant le bras, ou plus sévèrement, l'Australien Jay Vine. Mais toutes les équipes disent ce soir que leurs coureurs sont conscients. Reste que cette nouvelle chute qui intervient alors que le peloton était déjà traumatisé, pour reprendre une expression employée par plusieurs coureurs cette semaine, par des accidents plus impressionnants les uns que les autres depuis le début de la saison. Des managers d'équipe pointent du doigt l'évolution dangereuse du matériel, d'autres des comportements de plus en plus risqués d'une partie des coureurs.
On se rappelle de la chute la semaine dernière, Fanny, de Wout van Aert, notamment le champion belge, victime de brûlures, de multiples fractures. Et c'est la chute que redoute aussi un certain nombre de coureurs à quelques jours du Paris-Roubaix à cause de la chicane à l'entrée de la trouée d'Arambert, installée pourtant pour les éviter ces chutes, pour inciter les coureurs à freiner. Le favori de l'épreuve, Mathieu Van Der Poel, c'est une blague, écrit-il sur les réseaux sociaux. Au lieu de régler le problème, ça va en créer, pense aussi Marc Madiot, qui est le manager de Groupama FDJ. Beaucoup moins grave, la chute du plongeur Alexis Jandard en pleine inauguration du centre aquatique olympique de Saint-Denis. Aujourd'hui, la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. On dira que c'était pour tester le matériel. Mmh. Et puis en plus, il a beaucoup d'humour hein, cet après-midi pour
tester
en parler.
Tester son dos, le pauvre.
Inauguration en présence du chef de l'État, qui en a profité pour dire, sans confirmer sa présence, qu'Aya Nakamura avait toute sa place lors de la cérémonie d'ouverture. Et comme on parle Jeux Olympiques, je vous signale aussi que Soprano et Alonso seront en concert gratuit le 8 mai sur le Vieux-Port de Marseille à l'occasion de l'arrivée de la flamme olympique sur le sol français. Le sport, c'est enfin un forfait ce soir qu'il faut noter. Raphaël Nadal ne jouera pas le tournoi de Monte Carlo qui ouvre la saison sur terre battue, pas prêt physiquement, dit le joueur espagnol. Et on quitte le plancher des vaches avec vous. Bonsoir Sophie Bécherel.
Bonsoir.
Notre spécialiste science et univers ce soir. C'est un grand soir pour la communauté des cosmologistes passionnés par l'énergie noire, cette forme d'énergie mystérieuse qu'on a découvert en 98 à l'origine d'une force qui accélère l'expansion de l'univers. Ça fait un an qu'un télescope, DESY, c'est son nom, installé en Arizona, scrute le ciel, étudie les galaxies et parvient à en tirer une carte, une sorte de film historique sur 11 milliards d'années. Et ce film, Sophie, il nous réserve quelques surprises.
Oui, en observant 6 millions de galaxies, DESY fournit un film de l'histoire de l'univers, vous l'avez dit, sur lequel il apparaît que l'expansion n'est pas uniforme. Alors arrêtons-nous sur cette notion, l'expansion de l'univers. Imaginez un ballon de baudruche, c'est l'univers. Au départ, il n'est pas gonflé. Dessinez dessus de gros points, ce sont les galaxies, puis gonflez le ballon. Que se passe-t-il ? Au fur et à mesure que vous gonflez, les points, donc les galaxies, vont s'éloigner les unes des autres, n'est-ce pas ?
Oui.
C'est ça, l'expansion de l'univers. Il se trouve que les astrophysiciens ont remarqué que cette expansion s'accélère depuis les origines. Comment ? On ne sait pas trop. Einstein a résolu le problème en ajoutant en 1916 à son équation de la relativité une constante, on l'appelle la constante cosmologique. Baptisée énergie noire dans les années 90, vous le disiez, elle représente quand même 70% de l'univers. Mais comme le reconnaît le physicien du CEA Étienne Burtin, impliqué dans cette étude, elle pose encore problème.
Ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, sur l'énergie noire, on ne connaît rien. La seule chose qu'on connaisse, c'est que c'est un phénomène physique, si on lui a donné ce nom d'énergie noire, qui permet l'accélération de l'expansion de l'univers.
Quel rapport avec le télescope DESY, me direz-vous? Eh bien, DESY vient de montrer que cette énergie noire n'a pas un effet constant sur l'accélération. Arnaud de Mathia, lui aussi physicien au CEA.
Ce qu'on voit dans les données de DESY, c'est que on n'aurait pas tout à fait une constante cosmologique, mais que la constante ne serait pas en quelque sorte constante, qu'il y aurait une évolution de l'énergie noire dans le temps, et que l'énergie noire deviendrait de plus en plus importante au fur et à mesure de l'expansion de l'univers.
L'expansion s'est particulièrement accélérée 6 milliards d'années après le Big Bang, avant de ralentir dans les temps récents. La différence ne porte que sur quelques pourcents, sur un total de 70% d'énergie noire. C'est peu, mais c'est suffisant pour s'interroger sur la justesse des équations de la relativité générale d'Einstein. En tout cas, cela va aider à mieux cerner cette énergie noire.
L'univers qui continue de bien grandir, mais si j'ai bien compris, avec un petit coup de frein.
Voilà. Et un ballon de baudruche, hein, ouais. Si j'ai bien tout compris. Merci beaucoup, Hélène Philly, merci vraiment, on se retrouve demain. Dans un instant, c'est le téléphone sonne, on va parler de sport et de data, de données, voir si ça change nos performances chez les amateurs comme chez les pros. On jette un œil sur le ciel d'abord.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne, tout simplement, sur euromaster.fr.
Calac, un peu de pluie au nord demain.
Oui, le matin entre le nord-ouest et le nord de la Seine avec du vent. Et puis l'après-midi, juste quelques gouttes de la Bretagne vers le bassin parisien, les Ardennes et la Lorraine. On aura des éclaircies vers la Bourgogne, le Jura et l'Alsace le matin, mais qui se réduiront au fil des heures. Alors que de bons moments de soleil reviendront au nord, sur le nord-Pas-de-Calais l'après-midi. Et puis sur la moitié sud, du soleil, mais attention de la grisaille matinale. Tout de même près de la Méditerranée, surtout vers le Languedoc-Roussillon. On aura un vent de sud à sud-est qui se renforcera demain jusqu'à 80 km à l'heure sur les Pyrénées, l'Occitanie et en vallée du Rhône.
Et côté thermomètre, ça va monter?
Oui, 8 à 14 degrés attendus demain matin, 20 vers le Pays Basque et puis l'après-midi, 17 degrés à Brest, 19 à Paris, 25 à Cognac, Clermont-Ferrand et Grenoble, jusqu'à 28 à Bayonne et à Tarbes. Samedi sera le pic de l'épisode de cette chaleur précoce. Il fera souvent 24 à 28 degrés, sauf sur le nord-ouest et en Méditerranée, jusqu'à 30 à 31 degrés attendus sur le sud de l'Aquitaine et ça baissera nettement dès dimanche par l'ouest avec le retour de la pluie.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup.